paix et tout bien. Amis auditeurs, nous retrouvons Frère François, ce frère universel, à travers l'ouvrage de Julien Green, Frère François, mis en audio-diffusion par Saint-Léger Productions. Et nous abordons maintenant, non pas une vertu typique, une vertu seulement franciscaine, mais une vertu typiquement franciscaine, ou un charisme vraiment propre à François, celui de la joie. Bonne écoute.
La joie. Cette joie que François répandait dans le cœur de milliers d'hommes, comment s'obtenait-elle? Suffisait-il de faire comme lui? On courait lui demander la paix et la libération des sens. N'était-ce donc qu'affaire de volonté? Le mystère se trouvait ailleurs. De tous les miracles accomplis par saint François, le plus étonnant restera la grande aventure franciscaine qui faillit changer le monde à tout jamais. On voit bien pourquoi elle devait tourner court. Plus difficile à comprendre est la chance qui lui fut donnée de réussir complètement selon les idées de son animateur. Qu'on se représente la jeunesse sacrifiant sa jeunesse et se jetant dans la pénitence comme dans une fête, prise de folie aux yeux du monde, elle abandonne tout d'un coup, le plaisir des sens et toutes les promesses de bonheur que lui offre le siècle. Pourquoi? Parce qu'en 1204, un jeune exalté a lu trois versets de l'Évangile et conquis l'amour sans limite. En imitant cet imitateur du Christ, on compte bien arriver à un résultat semblable. Le pari est énorme. Et si l'on n'obtenait rien en échange de cet abandon total? Cette éventualité ne mérite pas qu'on s'y arrête. On est appelé à Dieu par la voix du Poverello. François ne peut pas se tromper. François est comme le Christ. L'erreur serait de le prendre pour le Christ. Là est le piège. Mais Dieu est fidèle. Avec un élan que l'Église n'a pas connu depuis les premiers siècles, la première génération franciscaine reçut le royaume de Dieu comme un enfant. Suivent les adultes avec une ferveur égale. Pour eux, l'épreuve est peut-être plus sévère. Les jeunes n'ont ni carrière, ni fortune, ni magnifique demeure à sacrifier. Leur générosité est aveugle. Celle des hommes demande réflexion. Dans la plupart des cas, celle-ci se voit écartée comme seraient écartées les objections dans la vie d'un jeune homme victime d'un coup de foudre. Et puis, l'Italie est une grande amoureuse. Des hommes venaient, vivaient avec les frères comme des frères, repartaient parfois après des semaines ou des années, tant qu'il n'y eut pas d'ordre institué, mais leur vie était changée à tout jamais. Saint François et les femmes. N'empêche qu'il reste des questions à régler. Au premier chef, l'éternel problème de la chair. On a souvent parlé de la douceur de François. Aujourd'hui encore, elle figure en bonne place dans les portraits qu'on fait de lui. D'un regard, d'un sourire, il faisait accepter les exigences les plus difficiles de la vie en commun. Sa règle, assurément, gardait l'austérité des pages de l'Évangile d'où elle était issue. Là était pour beaucoup la force de son attrait. C'est la sévérité que demande la jeunesse à la religion, de même que les adultes qui ne renoncent pas aux facilités du monde pour les retrouver sous la bure. Pour mieux voir comment tout cela s'arrange, il n'y a qu'à se rendre en Ombrie, par exemple, et regarder le visage des jeunes frères que l'on croise dans les couvents. Ce qui frappe, c'est une gaieté charmante. Chez les plus âgés, une sérénité toujours prête à sourire. François, le frère par excellence, ne les a pas quittés. Il détestait la richesse. Il a légué sa joie à ses innombrables enfants. On le respire comme l'air d'une forêt au sortir de nos villes empestées. Tout cela dit, nous savons que François était d'une rigueur épouvantable quand il s'agissait de la chair. Son horreur des fautes sexuelles serait de nos jours qualifiée de morbide. Elle est si révélatrice qu'elle mérite qu'on s'y arrête. Une brève anecdote nous donne le ton. Un frère, ignorant la défense de se rendre dans un couvent de femmes, alla sur l'ordre d'un ministre chez les pauvres dames pour leur venir en aide. Il s'appelait Étienne. Un jour de décembre, qu'il cheminait avec François le long du Tibre, il lui avoua ce manquement à la règle. Peut-être ne prévoyait-il pas l'orage qui devait éclater sur sa tête. Rudoyé sans merci en paroles, le frère trop zélé reçut l'ordre de se plonger dans le fleuve, ce qu'il fit sur le champ. À la place de François ? Sorti de l'eau glaciale, il grelottait de froid, et ce fut ainsi qu'il regagna avec François l'ermitage à 2 kilomètres de là. Mais il avait appris une fois pour toutes que la fréquentation des femmes est un miel empoisonné, et que de leur parler sans être contaminé était aussi facile que de marcher dans le feu sans se brûler les pieds. On aurait cru, remarque Celano, à la peur ou à la répulsion plutôt qu'à la prudence. Car François, tout saint qu'il était, s'écartait des femmes et ne répondait que par monosyllabes à leur babil. Elles obtenaient rarement de lui le plus fugitif coup d'œil. Il confia un jour à un frère que si jamais il lui arrivait de les regarder, il n'en reconnaîtrait que 2. On s'était forcé de deviner qui ces 2-là pouvaient être. Dame Pica, sans doute, parce qu'on n'oublie pas le visage de sa mère. Et la seconde ? Pas d'hésitation possible. Le visage de Claire, la dame des pensées du chevalier fidèle, celle qui était devenue pour lui dame pauvreté, envoyée par le Christ. Et comme le monde est plein de gens curieux, on en a trouvé une troisième, singulière celle-là. Frère Jacqueline, qui viendra dans ce livre plus tard. La terreur de l'élan charnel chez François faisait de l'amour une passion voisine de l'angélisme. Ce qu'il condamnait parfois brutalement chez autrui, il veillait à l'anéantir en lui-même par toutes les mortifications. « Ne faites pas de moi trop vite un saint, je suis parfaitement capable de faire un enfant. » Est-il nécessaire de remarquer en passant que ce n'est pas là la parole d'un homme vierge, mais bien d'un être de chair qui a connu le plaisir, et c'est bien ce dont il parle. Cependant, Sœur Claire exprimait souvent le désir de prendre un repas avec lui. Vœu fort innocent, dont elle ne soupçonnait pas les difficultés qu'il entraînait. François refusait fermement de lui accorder cette faveur. Que craignait-il donc ? De tomber amoureux dans le sens ordinaire où on l'entend ? Néanmoins, personne n'entendait rien à son attitude envers la sainte religieuse dont il avait jadis coupé la belle chevelure. Et les frères insistaient pour qu'il cédât, et finalement ce fut oui. Le repas eut lieu à la Portioncule, en souvenir de la prise d'habit. Claire vint avec une compagne. Tous les frères étaient présents et la table préparée à même le sol. Les convives venaient à peine de s'asseoir que François se mit à parler de Dieu. Il n'en fallait pas plus pour que tous fussent ravis en extase. Grand fut l'effroi des gens qui passaient par là en voyant flamber et les bois et la Portioncule. Les assisiates aperçurent de leurs murailles les lueurs d'un incendie et accoururent pour éteindre le brasier. Mais arrivés aux portes du couvent, ils comprirent que ce feu qui ne consumait rien était une manifestation de la présence divine, incendiant les cœurs.
C'était dans notre émission Pax et Bonum, paix et tout bien. Notre petit moment franciscain où nous découvrons la vie de François à travers l'ouvrage de Julien Green. Rendez-vous la semaine prochaine, amis auditeurs, pour poursuivre cette merveilleuse aventure franciscaine.